Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous allons à Baguet-Morvan, plus précisément au musée de la paysannerie, rencontrer Michaël Romé, qui va nous parler justement du musée de la paysannerie, de son histoire, de l'activité de sa ferme, ainsi que de l'agriculture bio et paysanne que l'on peut y retrouver. C'est tout de suite dans Résonance, vous écoutez Univers 99.9. Nous sommes ici à Baguet-Morvan, plus précisément au musée de la paysannerie à Baguet-Morvan, et je suis avec Michaël Romé. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, effectivement, le musée, mais le lieu-dit, c'est les Cours Paris, la ferme des Cours Paris.
Nous sommes donc au musée de la paysannerie. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler du début de cette aventure et voilà, nous faire une histoire de ce lieu et de son activité, de ses finalités?
Oui, donc le musée de la paysannerie, à savoir qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus s'appeler musée, on s'appellerait écomusée. Donc le musée, il a été créé en 86, donc il y a plus de 30 ans. Et en fait, tout simplement, donc ça doit faire 3-4 générations que nous sommes là. Mon père, qui n'est pas né sur la ferme, c'est ma mère qui était née sur la ferme, a été agriculteur pendant un peu plus de 20 ans. Et en fait, il a connu l'évolution, donc il s'est installé en 70 par là, l'évolution de l'agriculture qui partait un peu dans tous les sens, hein, avec l'industrialisation. Et donc, comme tout le monde, eh bien, il était sur une petite ferme avec 15 hectares au départ. Il est monté à 30. Et malheureusement, il y a eu la brucellose, comme beaucoup d'élevages en Bretagne. Et la brucellose, ça veut dire qu'il fallait faire un vide sanitaire de 2-3 ans en bovin. Et autrement, se lancer dans du élevage hors sol. Et c'est ce que beaucoup ont fait, donc, c'est-à-dire du cochon industriel, du veau en batterie. D'autres, ça va être de la volaille. Mais ici, en fait, on a fait du veau en batterie. Et lui, il reconnaît, il a fait du veau aux hormones. Hein. Mm-hmm. Il le faisait, il mettait les implants sous la peau, et voilà. Et malgré tout, il a galéré. Il a fait du cochon industriel aussi. Et en fait, il s'est aperçu qu'il travaillait pour un système, mais que lui, en aucun cas, il gagnait de l'argent avec ça. Mmh. Et un jour, fâché, il s'est dit, de toute façon, la porcherie, soit je la rase, soit j'en fais autre chose. Et en fait, on est sur l'axe, effectivement, d'Olcombourg, tout près d'un camping qui s'appelle Les Ormes. Mmh. Et déjà, à l'époque, on voyait un peu de tourisme, un peu d'anglais. Il s'est dit, pourquoi pas lancer une petite activité touristique. Donc de là, lui est venue l'idée, en 86, de lancer ce petit musée agricole. Donc c'est du matériel qui va de 1850 à 1950, qui retrace un peu la vie des paysans dans le pays de Dole. Mm-hmm. Donc savoir qu'ici, avant, c'était un pays primeur. On faisait beaucoup de pommes de terre. Donc il y a beaucoup de travail autour de la pomme de terre. Tout le monde faisait du blé. Et c'est bien de savoir d'où on vient. Et effectivement, tout le monde, en fait, faisait de la polyculture élevage. Il y avait de l'agronomie à l'époque. Donc on ne faisait pas qu'une seule production. Il y avait, par exemple, 4-5 vaches qui produisaient du beurre, qu'on allait vendre sur le marché. Ensuite, il y avait du petit lait pour élever les cochons. Il y avait des pommes de terre. Voilà, il y avait multitude de productions, ce qui fait que les petites fermes, malgré tout, arrivaient à vivre, élever leurs enfants. Et il y avait encore de la main-d'œuvre à ce moment-là sur les fermes. Et donc, c'était important de retracer ça. Et en fait, 86, c'était aussi juste après les quotas laitiers de 84. Donc, il y avait encore plein de petites fermes, en fait. Il y avait plein de gens qui avaient gardé sous des vieux cabanons, des vieux hangars, du matériel avec des roues en bois, des choses comme ça, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et donc, il était grand temps de faire quelque chose, de récupérer ce matériel. Et moi, je me souviens, j'étais gamin, j'avais 12 ans. Eh bien, on partait en tracteur avec la remorque à 50 km autour de chez nous. Et on ramenait du matériel autant comme autant. Et c'est comme ça que s'est lancée l'idée du musée de la paysannerie.
Le musée de la paysannerie, donc, qui est toujours, de montrer ce qu'est justement l'agriculture paysanne, c'est ça, et son histoire.
Oui, complètement. Enfin, là, vite fait, je trouve qu'effectivement, enfin, moi, je suis pas du tout nostalgique, hein. J'ai pas vraiment connu cette époque-là. Donc, mais par contre, je suis un fervent défenseur de l'agriculture paysanne. Et l'agriculture paysanne, en fait, les valeurs, c'est ça. C'est l'agronomie, c'est l'autonomie, c'est le respect de la nature, de la biodiversité, on respecte les haies. Voilà. Et je trouve que, ben, justement, avec le musée, effectivement, c'est vraiment un témoignage de tout cela. Mais moi, aujourd'hui, donc, je ne vis pas du musée. Le musée, c'était une association. Donc, ce sont des bénévoles qui se relaient. Aujourd'hui, on est seulement qu'à 2000 entrées sur le musée. On avait fait 15 000 à une époque, il y a 10-15 ans. Donc aujourd'hui, on est plus en train de maintenir quelque chose. On espère le développer demain. Mais moi, mon métier avant tout, c'est d'être paysan. Donc 39 hectares, je fais des vaches allaitantes, un peu de cochon en plein air. Et depuis 6 mois, Céline, ma compagne, est installée sur la ferme et elle fait du pain. Donc on est vraiment en polyculture élevage. Et chaque atelier, en fait, on va dire, est complémentaire. Et c'est ça le plus important. Et on vise un maximum d'autonomie, en matière première, c'est-à-dire être capable de nourrir ces animaux à partir de ce que l'on produit sur la ferme.
Il y a un marché, je crois, aussi ?
On fait une vente à la ferme le vendredi soir. Donc, on vend le pain de Céline. Sur commande, il y a le porc et le veau. Mais il y a aussi Lauriane, que j'ai oublié, mais en fait, qui a fait partie du parcours, de mon parcours à l'installation. Donc, je suis installé, moi, depuis 1994. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Et je suis passé en bio en 1998. Et donc, il y a à peu près 2002, chose comme ça, Lauriane s'est installée sur la ferme. Donc, je lui ai cédé 9 hectares que je louais. Et en réalité, on est 3 sur la ferme. Donc, Lauriane a un statut individuel. Mais en pratique, on est sur le même lieu, la même étable. Et elle a une dizaine de vaches qu'elle traite, elle fait du fromage. Et donc, sur ce marché, elle vend ses produits laitiers. Donc, c'est assez diversifié. Il nous manque un peu les légumes. Et on travaille du coup avec un maraîcher qui n'est pas très loin. Et on aimerait avoir demain un maraîcher sur la ferme, ce serait pas mal. On a eu l'expérience déjà il y a 6-7 ans en même temps que Lauriane. Mais c'est toujours un projet d'installer un maraîcher. Et l'agriculture paysanne, c'est ça. En fait, je pense que plus nous sommes de bras sur une ferme, plus nous sommes à même de créer de la valeur ajoutée, donc de faire un produit fini et donc de vivre nombreux sur les fermes. Et ça, enfin, c'est pas du tout utopique. Hein. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont vers cette voie-là. En Ille-et-Vilaine, par exemple, on a installé seulement 100 jeunes l'année dernière. 100 jeunes avec les aides. Sur les 100 jeunes, il y a eu plus de 30 installations qu'on appelait autrefois atypiques, qu'on appelle plutôt aujourd'hui innovantes, qui sont des gens qui ont compris qu'il fallait produire pour le local, en fait. Il faut produire par rapport aux besoins locaux.
Justement, cette dimension de polyculture, c'est l'idée aussi de pouvoir trouver des produits locaux et une diversité de produits, c'est ça ?
C'est ça. Et en fait, en Bretagne, on a encore la chance. On a un climat qui permet de ne pas arroser. Par rapport ne serait-ce qu'au sud de la Bretagne ou le sud de la France. Il faut savoir qu'ici, en fait, autrefois, on faisait les pommes de terre. C'était le pays primeur, en fait. Donc on peut produire quasiment plein de choses, mis à part peut-être les fruits exotiques. Mais en fait, ce qui est quand même aberrant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le pays de Saint-Malo, qui est un pays primeur, on fait de la pomme de terre, autrefois on faisait du chou et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, tous les restaurateurs, on a plein de touristes qui arrivent à Saint-Malo, achètent tout le temps au moins cher. Donc ça vient du Maroc, ça vient d'Espagne. Et du coup, alors qu'on a des producteurs qui sont là, quoi, qui font aujourd'hui du chou-fleur, qui est du chou-fleur surgelé, qui n'a aucune valeur ajoutée, qui est stocké en attendant des cours meilleurs. Et alors que Saint-Malo, on a des gens qui ont des compétences, qui ont des très bonnes terres, ce qu'on appelle des terres non-gélifes. Donc on pourrait quasiment toute l'année faire des légumes, quoi. Donc on commence à prendre conscience qu'on peut faire quelque chose, mais le fait de vouloir tout le temps acheter à pas cher, des fois c'est l'histoire de centimes, mais en réalité on est en train de délocaliser tous nos emplois, et à délocaliser tous nos emplois, en fait, on s'aperçoit qu'on perd tout simplement notre autonomie alimentaire et même après décisionnelle, quoi. Et grâce aux installations innovantes comme on a sur la ferme, et l'agriculture d'avenir, elle passe par ces circuits courts. Je ne veux pas dire que tout le monde ne fera du bio, mais il y a moyen, en tous les cas, même si on est en filière longue, de produire de la qualité et produire pour son territoire. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut-il encore le vouloir au niveau politique.
Et aussi, beaucoup moins polluante, de fait, puisque les distances et les trajets sont réduits.
Enfin, si on prend le magasin principal des produits bio, 70% en fait de la production est produite en France. Donc c'est quand même pas si mal que ça, mais effectivement, on achètera tout le temps un peu à l'extérieur. Mais aussi parce qu'en fait, on traîne un peu des pieds. Aujourd'hui, on fait toujours venir du lait d'Allemagne, du lait bio, qu'on aurait pu produire en France. Mais à l'inverse, l'agriculture conventionnelle, c'est 60% qui vient de l'extérieur de la France. Donc, je veux dire que c'est tout le modèle qu'il faut revoir, quoi. Aujourd'hui, on fait la matière première, par exemple, en conventionnel. On fait du cochon à gogo, mais par contre, on ne sait pas le vendre, on ne sait pas le valoriser. Donc, on va produire un cochon, on va le faire abattre en Allemagne, qui va refinir dans une salaison en Auvergne et qui ça va revenir en produit transformé en Bretagne. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein, quoi.
Alors, justement, Est-ce que vous pourriez nous parler? On voit bien, et on en entend déjà beaucoup parler, justement, des questionnements sur l'agriculture conventionnelle, comme on dit. Mais quels sont les relais par lesquels, d'après vous, l'agriculture paysanne, l'agriculture de proximité, peut se développer? Vous parliez tout à l'heure des collectivités, des cantines. Quels sont les différents lieux, moyens par lesquels, justement, une agriculture plus raisonnable peut se diffuser et dans laquelle on pourrait se retrouver?
Donc, les moyens, il y en a plusieurs. Déjà, c'est la restauration collective. Hein. Même là, depuis le Grenelle de l'environnement, on en parle. On disait 20% de bio dans les collectivités. Ça traîne, mais je pense qu'on va y aller. Donc déjà, ça, ça me paraît normal. En plus, c'est de l'argent public. C'est l'attente des citoyens. Enfin, je pense que c'est vraiment, il y avait un vote de fait là-dessus. C'est ce que les gens veulent pour nos enfants. Après, les magasins de points de vente sont divers, enfin, il y en a plein. L'autre moyen, c'est les AMAP aussi, qui existent toujours et qui, au contraire, fonctionnent très très bien. Donc c'est vraiment le consommateur qui se prend en main et qui dit « moi, je veux soutenir que cette agriculture-là qui est locale et qui maintient les emplois locaux ». Et autrement, aujourd'hui, on sait que la grande surface, elle voit bien, elle a du mal à augmenter ses volumes. Elle s'aperçoit que finalement, la bio, ça marche. Et aujourd'hui, les grandes surfaces font du bio. Et donc, tant mieux si on recrée nos emplois. Le seul truc qu'il faut être vigilant, c'est ne pas retomber dans les travers avec une agriculture, une bio industrielle. Mmh. Et c'est aussi ça qu'on défend, nous, à l'agriculture paysanne. C'est que l'agriculture paysanne, avant tout, c'est des petites fermes qui respectent le vivant, l'agronomie, tout ça. Mmh. Mais en aucun cas, ce n'est pas forcément que la bio. Et encore moins si c'est de la bio industrielle. Mmh. Ce qu'on défend avant tout, c'est le social, c'est les emplois et les circuits courts et une cohérence, donc l'agronomie. Donc, je dirais que la bio a un prix et attention aussi en achetant à ne pas s'éloigner de cette logique de maintenir des emplois. C'est pas parce que la grande surface fait du bio à tout prix pour aller chercher un marché. Mmh. Peut-être que derrière, il n'y a pas forcément cette éthique d'environnement. C'est plus une éthique des fois d'argent. Donc attention, quelque part, on défend des valeurs. Ça veut dire qu'il faut cuisiner un petit peu plus, qu'il faut, de temps en temps, tant pis, s'il faut aller dans deux endroits, aller acheter ses légumes ou son pain. Ça commence par ça. Et faut laisser un petit peu de temps. Aujourd'hui, on voit que les agriculteurs s'organisent, que des petits points de vente, comme on fait sur la ferme, se multiplient aussi. Et ces gens-là, si vous les soutenez, effectivement, ils seront plus à même d'avoir un étalage plus important et plus abordable aussi.
On parlait tout à l'heure le musée de la paysannerie, mais qui est un écomusée, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette dimension d'explication, de démonstration, d'exposition des pratiques agricoles paysannes. Ici, c'est ce que aussi vous pouvez proposer?
Oui, alors en fait, et ça attend des gens, ça va en lien avec le musée, c'est des animaux. Mais des animaux de race locale qui sont évidemment en lien avec le musée.
Oui, parce que quand on arrive là, ici, on est immédiatement plongé aussi dans l'activité de la ferme.
C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, une ferme, généralement, elle est spécialisée, elle va faire que du lait ou elle va faire que du cochon. Et en bio, on trouve plus de diversité, généralement. Et en fait, le fait en plus, nous, d'avoir le musée, moi, j'ai tout le temps souhaité avoir une volaille diversifiée, donc toute la basse-cour, ça va du dindon, la pintade, les canards, l'oie, les poules, les coucous de rennes. Il y a 2-3 chèvres, il y a 4-5 moutons, il y a une jument de trait, il y a des ânes. Donc quelque part, on dirait, c'est pas productif. C'est vrai que c'est pas productif, mais ça fait partie de l'équilibre de la ferme. Les ânes vont passer après les vaches. Le foin de mauvaise qualité, à la rigueur, je vais plutôt le donner aux chevaux ou aux ânes. Mais tout ça, c'est... Et puis le blé, finalement, je donne aux poules, mais les poules, elles nous donnent des œufs. Avec les œufs, on fait de la brioche, on fait des crêpes que Céline revend. Et tout ça, ça a un sens,
Michael Romé, merci donc pour cet entretien. Donc, au lieu dit des cours Paris, autour de votre ferme. Et du musée, le musée de la paysannerie, donc, qui se trouve à Bagay-Morvan. Merci.